Salut les smarts, salut les marques et welcome à Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch qui regarde, résume et analyse pour vous les shows de la WWE. Je suis l'amiral Ambar et pour commenter avec moi le dernier épisode de Monday Night Raw, j'ai avec moi le prince de la cohérence, Hank. Salut Hank.
Prince. Le prince de la cohérence, ça sonne quand même un peu bizarre. Ça va. Oui, ça va. Merci. Merci de m'avoir invité. Je me fais de plus en plus rare. Alors, n'hésitez pas dans le public. Hein. Si vous voulez me pusher, j'en viendrai plus souvent.
On a pensé à un moment donné faire des vignettes toutes les semaines, donc, qui a annoncé son retour, mais on a laissé tomber. Voilà.
Ouais, parce que j'avais pas d'Instagram, c'est ça le merdier.
Voilà. Il y avait un bug dans l'histoire. Bref, bon retour parmi nous, et donc pour commenter ce Raw du 20 mars 2017 qui se passe au Barclays Center de Brooklyn à New York. On est à 2 semaines de WrestleMania, le espèce de trolling ride, je sais plus comment ils appellent ça, ils disent tous les 20 secondes.
Alors je sais plus parce qu'il y a Daniel Bryan qui disent punching, attends c'était quoi déjà? C'est genre en clair le grand spectacle des pains dans la gueule. Enfin, ils changent un petit peu de surnom toutes les semaines, ils testent des trucs.
On comprend rien comment ils appellent WrestleMania, dans tous les cas, c'est dans 2 semaines et donc.
C'est le grand daddy of them all.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Le grand stage, évidemment, pourquoi pas, mais c'est voilà. Tout. Donc là, ils essaient de donner un nom, on s'en fout. WrestleMania dans 2 semaines, donc on a la carte qui commence à prendre forme quasiment, qui commence à déjà être pas mal bookée. Et donc ce soir, on va voir d'autres matchs qui vont se rajouter ou des matchs qui vont se modifier. On va voir le programme et on commence avec Mick Foley qui débarque sur le ring. Mick Foley qui a pas l'air très bien, qui a un carton qu'il est en train de lire. Et il nous dit que en gros, c'est un homme humble qui se dresse devant le public de New York ce soir, qu'il a été general manager de Raw durant les 9 derniers mois, qui voulait personnellement remercier Triple H et Stephanie pour la grande opportunité que c'était. Mais que voilà, il a mis donc Monsieur Soko dans la bouche de Triple H la semaine dernière, et c'est une honte, il aurait pas dû faire ça, et que s'il reste general manager, eh bien c'est au détriment du public et au détriment de WrestleMania. Donc considérant tout ça, eh bien il prend un congé sans solde indéterminé à partir de ce soir. Donc il annonce son départ. Et puis il revient à mon situation, il prend son carton qu'il déchire, il commence à dire en gros « Mais non, je ne ferai pas ce que Triple H m'a demandé de faire, lire ce carton avant de rentrer. »
Fuck l'autorité, fuck la police.
Exactement, syndicaliste, Mick Foley, il votera Mélenchon d'abord. Et alors qu'il est dans cette rente anti-autorité, là forcément, Stephanie McMahon donc débarque, la commissionnaire. Qu'il dit qu'en gros, Foley, il a rien à dire puisqu'il a attaqué physiquement avec une chaussette. Donc, Triple H la semaine dernière, ça ne se fait pas. Triple H est quand même son patron. Un peu de respect. Et que si Triple H lui a donné des notes à lire, c'est parce que Mick Foley, il sait rien faire. Il sait rien retenir. Il est bon à rien. Il foire tout.
Ils ont un peu raison là-dessus.
Ouais. C'est pas faux, hein. Puisqu'il écrivait depuis des semaines le nom de la ville où il se trouvait pour pas se planter. Et donc, elle emprunte la phrase culte de son père, elle emprunte la phrase culte de Vince, Mick Foley, I've got 2 words for you, clin d'œil à son mari, you're fired, tu es viré. Donc, elle dit à Mick Foley, dégage du ring, c'est fini maintenant. Et au moment où Mick Foley va pour partir, on entend une musique de ska qui retentit dans l'arène, et c'est Sami Zayn, donc le face underdog, qui débarque pour dire, en gros, Stéphanie, ce que tu fais depuis que t'es commissionnaire, c'est mal. La virée Mick Foley, c'est mal, parce que Mick Foley, c'est mon copain, il est gentil, il a une chemise à carreaux, moi aussi je porte des carreaux, tu peux pas faire ça, t'es vraiment qu'une méchante. Là, commence à arriver une menace. Samoa Joe, qui commence à faire son chemin vers le ring, menaçant, donc faisant peur à Sami Zayn. Stéphanie qui fait, c'est bon Joe, je m'en occupe. Elle commence à bâcher un peu Zayn, lui dire écoute t'es qu'un raté, ça m'étonne pas que tu sois copain avec Mick Foley, et puis pour t'apprendre un peu la vie et le respect, eh bien tu vas avoir un match maintenant contre Samoa Joe. Donc Mick Foley dégage et toi Sami Zayn fais-toi démonter par Samoa Joe. S'ensuit un match, Samoa Joe contre Sami Zayn, donc un peu une redite, du moins on poursuit la rivalité qui a lieu depuis quelques temps. Le match est un peu plus disputé que ce qu'on a vu, j'ai trouvé en tout cas, donc qu'on avait vu au pay-per-view. Hein. Un match assez court, mine de rien, on n'a pas encore le temps qu'il aurait donné pour faire un gros truc, mais avec des spots sympas, on revoit, truc à retenir, un coup que Sami Zayn faisait son tornado DDT en sautant à travers les cordes à l'extérieur qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, ça fait plaisir de le revoir, mais ça ne change pas à la fin. Puisque donc effectivement Sami Zayn doit abandonner à la prise de soumission la coquina clutch, hein, la prise de soumission coquine de Samoa Joe. Donc Joe encore vainqueur dans cette rivalité. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture et de ce match?
Le segment d'ouverture, c'était pas mal. C'était, ça avait rien de très disons que le petit souci, je dirais, de ce segment d'ouverture, en fait, c'est qu'il pose pas d'enjeu pour l'émission. En fait, y a rien par la suite qui va se passer, qui va être relié au segment d'ouverture. Donc du coup, on va revoir Mick Foley à un moment,
Juste après, derrière, hein, on peut enchaîner là-dessus avant de reprendre notre avis. Juste après, on voit Mick Foley qui est dans les backstage, qui serre la main un peu à tout le monde, du moins tous les faces qui croisent sur son chemin, comme TJ Perkins, comme Cesaro et Sheamus. Il fait un hug à Bayley et à la fin, il tombe nez à nez juste devant la porte avec Triple H en costard qui tout sourire, dit à Mick Foley « Passe une bonne journée, have a nice day ». Et Mick Foley s'en va, et on en verra un peu plus tard que tous ceux qui étaient copains avec Mick Foley vont se prendre des matchs un peu unfair, injustes par l'autorité pour se venger. Donc voilà, effectivement, hormis ça, ça n'a pas d'impact sur le reste.
Oui, c'est vrai, il y a ce truc de punition, ouais, c'est pas faux. J'y avais pas pensé, mais c'est pour... En même temps, que Mick Foley ou pas et cette histoire, ils se font punir toutes les semaines. Hein. Stéphanie est punie des gens toutes les semaines. Pour n'importe quoi. Donc voilà, ouais, non, le segment, ça m'a pas marqué plus que ça. J'ai pas trouvé ça non plus trop long. Ça allait, quoi. C'était passable. Le match était bien. J'ai bien aimé qu'ils aient mis ce petit truc qui a fait que c'était justement le spot de Sami Zayn qui a fait que c'était pas juste une redite de ce qu'ils ont déjà fait. J'ai du mal à voir quand même s'ils veulent ou pas installer une feud en fait entre ces deux-là, parce que à chaque fois qu'ils sont l'un contre l'autre, on a l'impression que c'est très forcé, quoi. Au début, il y avait un petit vrai début de feud justement avec ce spot il y a 3 semaines, je crois, ou 2 semaines, Samoa Joe était près du Titan Throne et j'ai un truc qui s'affiche sur mon écran, hop, voilà. Samoa Joe était près du Titan Throne et Sami Zayn lui a sauté dessus, etc. Enfin, il y avait eu ce petit spot un peu genre faut les séparer, ils se détestent trop et tout. Mmh. Et puis ça s'est complètement calmé. Je sais pas,
Fastlane, c'était il y a 2 semaines seulement, hein, et à Fastlane, ils ont eu un match, les deux, donc, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas eu du nouveau dans leur feud, mais juste qu'ils peuvent pas se piffrer, et je pense qu'on peut y voir, en fait, autant Samoa Joe, donc le destructeur qui est l'arme de Triple H, peut-être que Sami Zayn sera le paladin, le chevalier blanc qui se battra en opposition, donc en miroir, en fait, hein, donc plutôt le camp Mick Foley, donc à gentille direction, le Gera Manager, bang bang versus donc Samoa Joe qui fait les bases de Triple H et qui casse des jambes à tire-larigot. Donc
c'est pas faux, mais ce que je dis c'est que là pour le coup une nouvelle fois finalement Zayn comment enfin une nouvelle fois au moins cette fois-ci Zayn il est attaqué par Joe, enfin Joe il joue le rôle de outil de l'autorité pure et il y a pas vraiment d'implication
personnelle.
Voilà, il n'y a pas d'implication personnelle dans leur feud, et, Et il y en avait une finalement au début parce que justement Samoa Joe avait insulté un petit peu Sami Zayn en interview.
Ouais.
Donc voilà. Mais donc voilà, correct. Rien de spécial à dire. Si le moment que j'ai bien aimé dans tout ça, que j'ai vraiment bien aimé, c'était tout con, c'est Cesaro et Sheamus qui disent merci à Mick Foley.
Ouais.
Parce que finalement, enfin, c'est ces rares fois où la WWE explique une histoire, enfin, construit une histoire qui est la réalité, du coup, parce que c'était Cesaro qui était aimé du public, mais qui commençait à descendre un peu dans la carte. Sheamus, tout le monde s'en foutait, tout le monde se foutait de sa gueule, etc. Et finalement, que ça soit vrai ou pas, on y croit que Mick Foley a vraiment participé et qu'il a poussé en coulisses pour ramener ces deux-là plus haut dans la carte
Tout à
et
fait, oui.
que il les aime, quoi.
Ouais, pour refaire l'histoire, effectivement, c'est lui qui, en tant que GM, avait proposé ces matchs, ces 7 matchs, ces séries de 7 matchs entre les deux, et après les a mis en tag team avant qu'ils deviennent champions, donc ça les a remis clairement dans la top middle card du show. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec eux, hein, donc on les a vus, comme tu disais, remercier Mick Foley, et l'autorité va forcément les punir parce qu'ils sont potes de Mick Foley et l'autorité n'aime pas Mick Foley. Donc niveau tag team, en fait, à Raw, cet épisode qui serait un peu le Jobber's War de ces dernières semaines, hein, tag team division qui est vraiment très très mal à Raw. On a pour WrestleMania normalement un match triple threat ou triple threat, ça du ringside, entre donc les champions, le club, contre Enzo et Cass, contre Sheamus et Cesaro. Mais pour les punir d'être copains de Mick Foley, Stéphanie dit à Sheamus et Cesaro, eh ben vous savez quoi les mecs, si vous voulez encore faire partie du match WrestleMania, eh bien vous allez devoir gagner un match ce soir et c'est un match handicap, vous allez être seul contre les deux autres équipes, donc le club et Enzo et Cass. Donc un match handicap, on a Sheamus et Cesaro qui rentrent, ensuite le club, suivi d'Enzo et Cass qui sont à New York, qui sont chez eux, donc ils font un peu leur petit talk. Et qu'est-ce qu'on a là? A couple of haters, ils appellent le club qui sont donc effectivement leur tag team partner pour le soir, hein. Ils les appellent l'équipe Monsieur Propre, puisque les deux sont forcément chauves. Et avant que le match commence, le club commence à tabasser Enzo et Cass. Rien que pour ça, merci Gallows Anderson parce que je ne peux plus supporter Enzo au micro. Donc c'est un peu dans la confusion générale que le match commence, puisque les deux équipes qui sont ensemble commencent à se battre. Et dans la confusion, Sheamus et Cesaro en profitent assez rapidement pour prendre l'avantage. Cesaro qui bloque effectivement l'un des gars du club. Donc c'est Anderson qui bloque pendant que Sheamus prend son élan, lui met un gros bro kick. Le match est plié en 1 minute 30. Donc Sheamus et Cesaro ont gagné et seront donc bel et bien de la partie de WrestleMania du match. Donc triple threat pour le titre. Et à la fin quand même, parce qu'on a New York, donc Enzo et Cass font leurs coups spéciaux de finition contre le club afin d'avoir un petit moment de pop devant leur ville d'accueil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match tag team et de cette petit revirement scénaristique? Vous faites pas partie du match, vous devez gagner, à vous gagner. À quoi ça
Ouais.
sert, madame? À quoi ça sert?
Non. Bah écoute, tu donnes mon avis avant que je le donne.
Ouais.
Oui, ça sert à rien. Bon, après oui, du coup cette idée de fallait bien un prétexte. Là, c'est l'idée de punition, donc bon. Mais oui, ça sert pas à grand chose. Puis en plus, je pense pas que ça a tant renforcé que ça. On pourrait dire genre ça, ouais, ça donne une victoire à Sheamus et Cesaro. C'était pas vraiment un match, quoi. Donc
Non.
bon, c'était plus du bordel qu'autre chose. Moi, en fait, le truc c'est que à ce moment-là, j'avais compris que du coup il y avait ce match de punition, mais j'avais compris que c'était contre Enzo et Cass tout seul, enfin
OK.
direct. Mais ça c'est parce que je faisais pas attention et que ça c'est quand je regarde un Raw en speed en venant chez moi, dès qu'il y a une pub etc, je suis sur le
Ouais.
PC, et puis alors je loupe 1 minute dès que ça ressort de la pub.
Et
Mais
là, pour le
donc
coup, vu que ça durait 1 minute, t'as effectivement loupé le truc, ouais, c'est clair. Donc oui, c'était un non-match, hein, c'était vraiment un
mais
non-match. Et
oui, mais
effectivement, ça
du
ne
coup
rend même
c'était
pas plus
n'importe
fort, ça
quoi.
rend même pas plus fort chez Monsieur Cesaro, puisque le club qui se fait coucher, qui se fait tomber, est en train de se batailler à l'extérieur contre Enzo et Cass. Donc il y a une espèce de distraction au sein même de cette association du soir qui forcément était dysfonctionnelle. Donc voilà, ça ne mène à pas grand-chose, ça ne change rien à la carte de
Moi,
Mania, donc.
je crois toujours en Enzo et Cass qui vont devenir champions à Mania. Je vois que ça, moi. Bah... Parce que ça va être... Ils vont... Tu vas voir qu'ils vont ressortir de leur chapeau la mésentente chez Miss Cesaro. Qu'ils étaient calmés, hein. Qu'ils étaient calmés, puis ouais. Ensuite qu'ils ont remis, puis ensuite que maintenant ça disparaît. Oh, ils vont la ressortir de leur chapeau. Gallows et Anderson, on a compris au bout de quelques semaines qu'ils sont complètement cons, hein. Dans ce qu'ils font dans leur match, leur tactique en général, il y a quand même eu quelques exemples de belles conneries.
Ah, il leur faudrait un manager, hein, pour expliquer la tactique. Il faudrait Paul Ehring de NXT qui coach les Authors of Pain afin de leur donner des conseils. Ça serait pas mal, ouais, effectivement.
Ouais.
Donc ouais, c'est donc, pas terrible, voilà. Hein, la division tag team
c'est encore,
d'Euro.
C'est encore la merde, voilà. Ouais, c'est encore la merde, la tag team d'Euro.
Et même si on regarde la tag team division de SmackDown, c'est pas forcément plus glorieux que ça non plus. Donc Mania, niveau tag team, ça prend un peu l'eau. Je pense que le show tag team, ça sera la veille de Mania et NXT, où là, on va avoir un match...
Le problème, si je peux faire du hors-sujet juste sur SmackDown, le problème de SmackDown, je pense, au niveau des tag team, c'est qu'ils ont les bonnes équipes, mais ils veulent pas choisir. Et ça fait des mois qu'ils veulent pas choisir qui est champion, en fait, à SmackDown. Et ils ont American Alpha qui sont champions, mais en fait, ils leur donnent pas de grands matchs, etc. Non. Ils leur donnent comment on appelle ça déjà, des...
Announcement match.
Pas des rumble, mais des gauntlet, voilà.
Ah oui.
Des gauntlet match en boucle. Je sais pas combien il y a eu de gauntlet match avec des tag team à SmackDown, mais c'est affolant. Et pourtant ils ont la matière, ils ont plus de bonnes tag team que Raw, hein,
ouais.
Pour moi.
En plus, donc, c'est vrai. Mais de base, il y a un gros problème de booking. Hein, on en parle quasiment chaque semaine. Niveau des tag team dans le main roster, c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Et là, l'autre segment qu'on avait sur les tag team dans cet épisode de Raw, pour revenir à Raw, donc ça concerne les New Day, donc qui sont les hosts de WrestleMania. Donc c'est juste un segment vidéo, alors qui commence de façon un peu particulière, qui a une double lecture, puisqu'en fait, il y a le New Day, il y a Xavier Woods qui est au milieu, qui a l'air un peu pas très bien, et puis de chaque côté de l'un de l'autre, il y a Big E et Kofi Kingston qui le regardent de manière un peu genre inquisitrice, et Big E qui lui demande « T'as un truc à nous dire dont tu veux parler, Xavier Woods ?» Et Xavier Woods, il fait « Bah oui, de WrestleMania !» Et là, il commence en fait à hyper le fait qu'ils vont hausser WrestleMania, il parle un peu des différents matchs, ceux de Raw de SmackDown, en faisant à la fin un New Day Rocks en adoration devant leur chariot à glace. Rien d'intéressant à dire, on n'apprend rien de nouveau, juste ils vont hausser Mania, ça fait 3 semaines qu'on entend parler et on n'est pas plus excité que ça. Le seul petit truc, c'est que effectivement le début du segment fait écho avec un truc qui s'est passé dans la sphère catchesque, puisqu'il y a eu des fuites de documents, photos et vidéos un peu olé-olé concernant Page, dans lequel est impliqué Xavier Woods. Et effectivement, le début avec Big E qui demande « Mais tu veux nous dire un truc ?» Clairement, ça fait référence à ça. Donc, la WWE qui, par une petite vanne, fait écho à ce qui se passe actuellement avec donc la sextape de Page et de Xavier Woods ainsi que de Maddox. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui. J'ai du mal parce qu'à chaque fois que je parle de ça, j'ai vu cette vidéo.
Bah moi aussi, c'est bien, j'ai regardé, j'avoue.
Et franchement, c'est difficile de voir Xavier Woods dans Monday Night Raw et de pas revoir la vidéo comme ça que t'as vu il y a 2 jours. Et tu fais, ah là là. apparemment, ça va bien pour toi. Apparemment, il a réchappé à une quelconque sanction, même si finalement il a pas. Je veux dire, personne ne mérite de sanction, hein, dans cette histoire.
Hormis ceux qui ont hacké effectivement les données privées de Page et qu'ils ont mis sur Internet après, effectivement.
À part si Page a rendu la ceinture salopée. La WWE, donc voilà. Et monsieur Maddox, si vous n'aimiez pas monsieur Maddox, sachez que tout de même c'est un sacré réalisateur.
Il a loupé sa vocation à la WWE. Ouais, c'était pas en tant qu'arbitre, en général manager, c'est un réalisateur qu'il fallait le mettre. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est arrivé il y a quelques jours, donc des documents qui ont fuité sur internet de la vie privée de Page impliquant d'autres superstars. Donc clairement, ça annule aussi, pour faire une petite aparté, toute chance, je pense, et on pense, hein, clairement, de revoir Page un jour, du moins très prochainement à WWE, Pour mémoire, elle était blessée de longue date. Elle a une suspension pour violation de la loi de la wellness policy de la WWE pour consommation de différentes substances. Elle est en couple avec Alberto Del Rio qui a claqué la porte de la compagnie en faisant grand bruit. Et là maintenant, la sextape, bon, on verra plus Paige effectivement dans un ring de la WWE avant très 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 longtemps, je pense.
Ouais, et
ce qui est dommage.
Je me demande si c'est genre très très longtemps ou genre pas même plus du tout parce que
peut-être plus du tout, ouais.
Parce que quand même Triple H il y a pas très longtemps a dit en interview en parlant de d'ailleurs c'était une interview avec Stone Cold je crois en parlant de China que l'important pour les gens qui sont alors il parlait du Hall of Fame mais bon
ouais China ceci dit a fait une a publié elle-même
ouais a fait du
fait.
Oui donc, elle a
c'est
fait
pas
du
pas
véritable
la même chose.
Porno
voilà
ouais voilà
là
c'est pas la
elle
même
s'est
chose
fait hacker c'est un
mais
document qui était personnel et privé donc
voilà mais n'empêche que ce qu'il disait c'est que pour mettre en avant une superstar comme un exemple. Bon, alors pour le coup, c'est Paige, ce serait pas exactement ça, mais bref. Ne serait-ce que mettre en avant une superstar, il faut que les enfants puissent taper sur Google le nom de cette superstar et pas tomber sur des choses un peu glauques. Et là, en ce moment, je pense que ça va, il va y avoir quand même quelques semaines où il faut pas taper Paige sur Google.
Non,
Paige
c'est clair.
WWE. Enfin, vous aurez des articles, mais.
Ouais.
Mais si vous allez fouiller un peu plus loin, vous trouverez autre chose.
Après, peut-être faire un tel appel au droit à l'oubli de Google, hein, de pouvoir faire effacer certains documents des moteurs de recherche. Enfin, bref, voilà, c'est dommage, on n'aura pas la belle et ténébreuse anglaise sur les rings. Bon, on espère en tout cas que ça ira quand même bien, parce que ça doit être une sale histoire qu'elle doit vivre en ce moment. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus léger, donc des poids légers, nos chers amis les cruisers. Les cruisers cette semaine, donc deux segments comme d'habitude. Le premier, c'est un match, une redite, et oui, toujours la lumière violette pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Un match qu'on connaît bien, du moins deux adversaires qui se connaissent bien, T.J. Perkins contre The Brian Kendrick, donc un énorme match qui est assez court celui-ci, qui se termine par une victoire de Brian Kendrick avec son Slice Bread number 2, après une distraction en utilisant l'arbitre, en tirant les cheveux de Super Saiyan de T.J. Perkins pour faire sa prise de finition, et après le match, Brian Kendrick qui tease encore Akira Tozawa, son ami du moment, leçon numéro 7 cette fois-ci. Tozawa n'est pas là parce qu'en fait il est bloqué hors des États-Unis parce que pour entrer aux États-Unis il faut ça. Et là il sort un passeport japonais en disant que Tozawa l'avait laissé traîner la semaine dernière lorsqu'ils étaient en dehors des États-Unis et donc il a volé le passeport d'Akira Tozawa pour empêcher Tozawa de revenir sur les États-Unis. Voilà donc leçon numéro 7, je te vole ton passeport et tout va bien et j'ai aucun problème. Voilà, la morale.
Et je le montre à la télévision.
Ouais, j'avoue tout, hein, je vole un papier.
J'ai volé un passeport, tout va bien.
Il y a aucun problème. Et ensuite,
une petite larme quand même pour T.J. Perkins, hein, qui, je sais pas. Franchement, le pauvre. Heureusement, apparemment, ils vont le reconvertir en véritable comique, hein, si on en croit la vidéo du Southpaw Wrestling Federation, je sais pas quoi.
Ouais.
Bon, on n'a pas le temps d'en parler. Non. Des très très bonnes vidéos. Regardez sur la chaîne YouTube WWE,
ouais.
Southpaw. C'est une mini-série comique avec plein de stars de la WWE qui font une parodie de... d'une fédération dans les années 60 de 4. Enfin, ouais, non, je disais les années 60. Ouais, j'aurais dit plus, ça m'a l'air super vieillot, genre 70. Enfin,
ouais,
bref,
mais pense que le catch a toujours 10 ans de retard par rapport à la mode quasiment ouais. À l'époque, dans les années 80. Mais ouais, c'est très vintage et très drôle, ouais.
Voilà, donc du coup, et il joue le rôle, enfin, ce qui est ironique, c'est qu'il joue le rôle d'un catcheur qui n'a pas de charisme. Ce qui est un petit peu la critique en général de pas seulement nous hein mais
non,
de médias
D'ailleurs c'est pour ça qu'il a combattu pendant des années sous un masque en fait hein, notamment lorsqu'il était à TNA etc pendant très longtemps il a catché masqué parce que bah il n'a pas effectivement les caractéristiques naturelles, il n'a pas le hit factor. Ceci dit, juste après ce match-là, plus loin dans l'émission, mais toujours au sujet des cruisers, on a donc Austin Aries versus Tony Nese. Donc Austin Aries a gagné à 205 Live le Fatal 5-Way pour être le first contender pour défier donc le roi Neville à WrestleMania. Donc on aura le roi Neville, le champion, contre Osiris à WrestleMania. Et c'est une affiche qui promet d'être sympa. Donc un match entre Tony Nese et Osiris, assez court lui aussi, plutôt un bon rythme effréné. Tony Nese qui a qui a un peu à son physique d'athlète, de premier athlète, donc, sachant que les deux ont eu des petites rivalités il y a quelques temps lors d'interviews, donc ça renoue avec ça. Osiris passe une belle combo Facebuster et STO et finit avec donc ses coups, son coup tournoyant de coups dans la tête que Corey Graves appelle le Five Arm. Donc c'est pas un Four Arm, donc qui est le coup de Four Arm avant-bras 4, mais c'est un 5, c'est un Five Arm pour la victoire. 1, 2, 3, Osiris gagne. À la fin du match, arrive Neville qui vient de narguer son challenger, dit « Ok, c'est bien Osiris, je te regarde te laisser te gonfler d'ego et tu vas te dégonfler comme un baudruche lorsque je vais t'écraser à WrestleMania. » Et Osiris qui dit « Écoute, c'est marrant, quand je te regarde, je vois pas un mec à confiance, je vois un mec qui doute parce qu'il sait qu'il va se battre contre un mec qui n'est pas à son level mais qui est au-dessus. Moi, je suis au double A level et à WrestleMania, tu vas perdre. » Donc voilà, et on apprend plus tard que, comme tu l'aimes bien, Osiris va s'adresser, aura un message pour Neville à Two of Five Live le lendemain.
Ouais.
Génial, on regardera
pas. J'aurai un message pour toi demain, parce que je peux pas te le dire maintenant, même
j'ai
si t'es en face
d'antenne.
De moi.
on a plus de temps, faut qu'on passe à autre chose.
Par contre, Tony Nese, faut lui expliquer comment ça fonctionne un torture rec. Parce que il prend le gars sur son dos, il fait un coup et puis après il est resté comme ça pendant 30 secondes à rien faire. Bouge.
Et j'adorais Michael Cole qui vendait le coup comme étant extraordinaire, genre oh regardez c'est incroyable, il fait un torturec debout. Ouais, super. Ça marche pas.
Il bougeait pas, il était enfin bref.
Donc Osiris Neville.
Mais par contre l'affiche est géniale, hein. Enfin ouais. Moi c'est clairement au niveau catch pur, un des matchs que j'attends le plus à Mania. Harris et Neville, ça va donner des grandes choses, ouais. Je suis sûr.
Ça c'est un vrai plus qu'on a avec la division Cruiser, hein, à Raw depuis quelques semaines, c'est d'avoir aussi Harris maintenant chaque semaine, autant au micro que dans le ring. Là encore dans le ring, je trouve qu'il a pas montré grand chose. Donc là vraiment, j'espère que son premier WrestleMania dans ce match pour la ceinture Cruiser, ils vont lui redonner du temps et qu'il va faire un match de référence parce qu'il a de quoi faire vraiment.
Je pense qu'il va prendre des risques, il va prendre plus de risques que ces dernières semaines. Et par contre, juste l'ironie, c'est que finalement, le match de Mania, le premier match de Mania des Cruisers, c'est un match avec des vétérans.
Ouais, complètement. C'est clair, c'est de gros vétérans du ring. Eh oui, mais bon, on espère que ça va être pas mal en tout cas. Après cette petite poche et les Cruisers, faisons un tour du côté de la division féminine. Donc on aura deux segments aussi, deux matchs. Le premier, c'est une revanche de la semaine dernière entre Charlotte et Dana Brooke, puisque la semaine dernière, Charlotte qui voulait se débarrasser de Dana Brooke en lui parlant comme une merde, eh bien, Dana Brooke s'est rebellée et l'a frappée. Donc là, il y a un match.
Dana.
C'était la seule fois depuis son arrivée à la WWE, NXT compris et Raw compris, que Dana Brooke a eu la fougue du public derrière elle. Donc, est-ce qu'elle a pu capitaliser durant ce match? Eh bien non, même si elle a montré une domination physique surprenante, hein, elle a été montrée comme étant quand même une catcheuse pas redoutable, mais tout de même un peu efficace. Mais forcément, la supériorité génétique de Charlotte fait le boulot. Et donc, effectivement, Charlotte lui met effectivement différents coups de boot coups de bottes dans la tête de façon assez tonitruante. Et donc, lui fait une prise afin de pouvoir gagner, comme c'est logique, évidemment. Hein, on ne voyait pas Dana Brooke gagner, il ne faut pas déconner. Mais elle a quand même tenu plus qu'on ne pensait. Donc, Charlotte qui met à terre son ancienne protégée. Avec
Je me souviens même plus là. Je me souviens même plus du finish. Mais ouais. T'allais dire le public ?
Et le public qui, pendant le match, chantait We want Paige, we want Paige, on veut Paige. Voilà.
C'est vraiment. C'est si on pouvait faire une review de 2 minutes du public de ce Monday Night Raw, c'est il y a deux faces à New York. Hein. Il y a des moments, New York, c'est un super public, et il y a des moments, c'est juste ils essaient de devenir Chicago en fait. Ils essaient de faire le Chicago Bis en fait. Mais ils n'y arrivent même pas.
Mais non, comme c'est New Jersey, ça marche pas quoi. New Jersey, c'est rempli de Zack Ryder et de trucs comme ça, donc ça ne marche pas.
Voilà, donc il y a quelques, il y a quand même beaucoup de gens très mous dans ce public aussi. Ouais. Mais bon, c'est logique, hein. Ils allaient pas commencer à pusher Dana Brooke à deux semaines de manière. Mais non, mais c'est bien. Enfin, j'ai une certaine. Depuis qu'en fait, ce qui est très bien, c'est qu'ils l'ont ramené Dana Brooke sans la mettre au micro, sans jamais la mettre au micro.
Ouais.
Et justement, c'est pour ça que je pense que les gens recommencent. Enfin, en tout cas moi et je. Je pense d'autres personnes, le public la semaine dernière l'a montré. Les gens recommencent à un petit peu rentrer dans le personnage, etc. Et finalement, on retire tout ce qui était le plus énervant chez Dana Brooke, c'était dès qu'elle était au micro, quoi. T'avais envie de lui en foutre une. Même en heel, tu disais non, mais t'es mauvaise, laisse Charlotte parler.
D'ailleurs, là, elle a repris sa tenue de ring qu'elle avait à NXT, hein, qu'ils avaient changé un petit peu. Là, elle a repris sa tenue noire et violette. Donc, retour aux sources pour Dana Brooke, qui va faire sa carrière indépendante. Après, est-ce qu'elle va continuer sur sa ligne là plutôt en face, s'opposant à Charlotte, ou est-ce qu'elle va redevenir une heel? On verra bien dans tous les cas. Pour l'instant, rien au programme pour Mania concernant Dana Brooke. Par contre, une autre qui va peut-être s'incruster dans la carte à Mania, c'est Nia Jax, hein, puisque comme Cesaro et Sheamus qui avait salué Foley à son départ, et bien il y a Bayley, comme je le disais plus tôt, qui a fait un gros hug à Mick Foley, puisqu'il y avait un rapport assez proche entre les deux. Et là aussi, Stéphanie vient la punir et lui dire, écoute, vu que la semaine dernière, tu as eu un match contre Nia Jax qui a été dominante, et bien ce soir, tu vas avoir un match. Et si Nia Jax gagne, et bien elle va intégrer le match pour le titre à Mania, et ça deviendra donc un Fatal 4-Way. Et parce que on veut pas que ce match se termine par une disqualification, parce qu'on sait que Nia Jax, elle blesse vraiment les gens, elle veut vraiment les détruire, et bien ça sera un match sans disqualification. S'ensuit le match, donc Nia Jax versus Bayley, la revanche du retour. Donc très logiquement, au départ, Nia Jax domine Bayley, qui essaie de s'exciter un peu comme une puce pour la faire vaciller, mais avec un coup ou maximum deux, Nia Jax la remet au tapis pour le compte. À mon avis, il y a une séquence assez violente où elle chope Bayley par les cheveux et l'épaule, près de la barricade, et l'envoie violemment sur le côté gauche de la barricade, puis le côté droit, puis le côté gauche en la lâchant.
Le ping-pong.
Ouais, le ping-pong, c'est un peu comme quand tu es poussette, je sais pas, des baskets ou tes fringues sur un mur, c'est pareil, mais elle fait ça avec Bayley, ce qui est plutôt assez impressionnant. À un moment donné, Bayley reprend du poids de la bête avec une combinaison d'une sorte de stunner un peu modifié et un coup de pied en courant. Elle fait un crossbody pour choper Nia Jax, mais Nia Jax, évidemment, se dégage, la récupère, fait un Samoan drop. Et donc, 1, 2, 3, elle gagne clean contre Bayley. Donc, elle sera au match contre Charlotte, contre Sasha Banks et contre Bayley au titre. Donc, c'est bien le Fatal 4-Way qu'on sentait arriver depuis un petit moment.
Et qui avait été un peu teasé par Nia Jax sur son Twitter. Je ne sais pas si elle avait sorti cette espèce de... elle avait sorti des tweets du genre... quand tu penses à WrestleMania ou un truc comme ça, avec genre un gif d'une fille qui pleure ou un truc de style là, genre elle était en train de se lamenter sur le fait qu'elle était pas à Mania, quoi.
Ouais.
Ouais, le match était plutôt cool, j'ai bien aimé. C'était bien, et j'ai bien aimé du coup ce spot. Encore une fois, c'est bien de... Ça serait tellement bien s'ils faisaient ça genre plus souvent, peut-être pas toutes les semaines, mais quand t'as déjà eu une rencontre entre deux personnes, t'as un autre match, et mais là ils décident de mettre ce truc qui va te marquer dans ce match là donc du coup Zayn, c'était le passage à travers les cornes, et là c'était le ping-pong magique, comme ils disent dans le film South Park. C'est Winona Ryder qui fait le ping-pong magique. C'est assez spécial, je vous recommande de voir le film. et donc, tant mieux, parce que Nia, moi, ça fait des mois que je dis j'aime beaucoup Nia Jax.
Ouais.
Euh, jeu que elle est pas parfaite, hein. Il y a des moments, elle fait des matchs vraiment pas terribles, elle a pas le bon timing. Bailey non plus, hein, donc c'est ça,
c'est cas de tout le monde à part Charlotte, c'est cas de tout le monde actuellement, voilà. Et je pense que voilà, c'est mérité, même si on peut dire Bailey qui a perdu, la championne qui perd contre Nia Jax, bah quand même c'est une force de la nature Nia Jax, donc à mon nez il faut que pas hésiter à faire perdre les champions, même si c'est quelqu'un qui a la ceinture contre quelqu'un d'aussi imposant que Nia Jax. Donc,
et c'est toujours donc, voilà. Un truc. Désolé de te couper, mais c'est toujours un truc qui marche de mettre un monstre dans un match où va y avoir des spots impressionnants, où ça soit à faire une double souplesse. Enfin bref, ça promet des trucs très sympas et du coup plus de variété dans le match que s'il y avait un Bailey, Charlotte, Sacha qui sont un petit peu, enfin Charlotte beaucoup plus grande, mais sinon elles sont quand même un petit peu du même gabarit quoi.
Ouais. Tout à fait, et puis c'était une carte qui était assez attendue, hein. 3 des 4 Horsewomen de NXT, l'année dernière on avait eu Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte, là on avait Sasha Banks, Charlotte, Bailey, bah là le fait de mettre Nia Jax, ça vient un peu perturber ce truc qui aurait fait un peu trop redite, même s'il y a Bailey et pas Bailey l'année dernière, là c'est bien, ça met un petit point de piment dans ce match que je trouve pas désagréable. Enchaînons avec des segments où on attaque là, les grosses storylines de manière... Avec donc le plus grand face en ce moment de Raw, Chris Jericho, Y2J, qui vient pour son talk show, le Highlight Reel, où il nous a promis la semaine dernière de nous d'avoir comme invité le véritable Kevin Owens. Donc on est un peu en attente et curieux de ce qu'il entend par là. Et donc Jericho arrive, il fait effectivement sa petite promo d'intro toujours agréable et qui est toujours super over et le public. Il nous dit voilà... Kevin Owens a jamais été mon meilleur ami, j'ai pas besoin d'amis, j'ai plein d'amis ici, Cheer It On Men, hein, les fans of Jericho. Et puis il dit voilà, le vrai Kevin Owens, c'est lui. Et là il montre une photo sur Titantron de Kevin Owens, à l'époque 16 ans, donc vous imaginez Kevin Owens mais à 16 ans, beaucoup moins de barbe, beaucoup moins de poids, beaucoup moins de muscles, qui est dans sa chambre, en train de poser avec un t-shirt Y2J en imitant la posture de Jericho, comme ceci, avec derrière un poster de Jericho et de l'autre côté un poster de Pamela Anderson. Donc Jericho fait une petite blague dessus en disant ok, il y a deux posters, un de Chris Jericho et l'un d'une star blonde inconnue à forte poitrine. On voit très bien qui c'est la bête sexy des deux, en disant bien sûr que c'est lui, hein, c'est Jericho qui est le gros sexy. Il dit que c'est pas fini, le vrai Kevin Owens, c'est aussi ça. Et là, il montre un échange de, on sait pas très bien si c'est des textos ou des messages privés Twitter, mais qu'importe. Ou en fait, c'est plus récemment, l'année dernière, où Kevin Owens, quand il est signé il y a 2 ans à la WWE, demande des conseils à Chris Jericho parce qu'il veut bien marcher dans la WWE et avoir des conseils d'un vétéran. Et Chris Jericho lui dit, bah t'as qu'à rester toi-même, fais ce que tu sais faire, c'est pour ça qu'ils t'ont signé. Et Kevin Owens qui fait, ah c'est super cool d'avoir pris du temps pour me répondre, merci. Si t'es là à Montréal pour show, appelle-moi, je te montrerai des trucs, etc. Et donc, Y2J dit, le vrai Kevin Owens, en fait, ben, c'est un fan de Chris Jericho. C'est un nerd de 16 ans avec son t-shirt dans sa chambre et des posters. C'est un fan qui m'idolâtre et qui me demande des conseils. Donc voilà qui c'est le vrai Kevin Owens. Donc il promet effectivement de battre Kevin Owens après l'avoir fait perdre sa ceinture universelle. Il va le battre en plein WrestleMania dans le match pour le titre de Jericho. À ce moment-là, plus ou moins, Samoa Joe commence à arriver. Donc Jericho qui est concentré pour ne pas se faire impacter par le Samoan. Et bien sûr, Kevin Owens profite des distractions pour l'attaquer par derrière et le rouer de coups. En finissant par une grosse pop-up power bomb, Jericho qui est par terre. Kevin Owens qui refait en clin d'œil la pose de Jericho comme ceci, comme sur la photo. Et donc, il laisse Jericho tout plat par terre dans le milieu du ring. Qu'as-tu pensé de ce segment, de cette amitié qui maintenant vire à la rivalité absolue?
Ouais, c'était la vieille mécanique du... Ce qui est bizarre, c'est que généralement, c'est utilisé par les heels plutôt que les face. Enfin, c'est comme Charlotte qui cherche la vieille lettre ridicule de Bailey, tu vois. Ouais. Elle faisait de la poésie quand elle avait 5 ans. Bah là, c'est pareil. Quand elle avait 5 ans. Je sais pas, quand elle était en école primaire, elle faisait de la poésie sur le catch. C'est ridicule. Bah là, c'est pareil. C'est genre, ah, regardez-le. Il est à 16 ans. Il est en train de faire des pauses dans sa chambre, tout ça. Donc voilà. Je sais pas, trouver ça spécialement drôle ou. Bon, c'était. Enfin, moi, je. Le seul truc, c'est que je savais pas que Jericho était genre méga fan de que Jericho, que Kevin Owens était genre méga fan de Jericho quand il était jeune.
Oui, parce que c'est une vraie photo, hein. La photo, elle est legit, ouais. Comme on dit. En fait, en même temps, Kevin Owens, pareil comme Bayley, Dodge s'en cache pas, est fan de catch depuis très longtemps. Il dit même que c'est en regardant la WWE qu'il a appris à parler anglais, puisqu'il parle français originellement, même s'il est canadien. Et comme il est canadien et Jericho est canadien aussi, je pense que forcément tu peux être plus facilement fan, parce que voilà quoi, c'est un compatriote à toi qui est champion à la WCW.
C'est quand même, enfin, du coup, ça rend l'histoire encore plus dingue, quoi.
Ouais.
Quand tu te dis que finalement, non seulement il a eu sûrement sa plus grande cote de popularité à la WWE grâce au catcheur qui était son idole quand il était petit, et que en même temps il a participé à remonter son catcheur préféré dans un niveau de popularité qu'il a jamais connu quasiment.
Ouais, c'est cool, hein. Il y a vraiment un effet super cool, je trouve. Ouais, c'est ça, il y a un effet vraiment, une aura vraiment agréable autour de cette histoire entre les deux, que ce soit leur amitié, même s'ils étaient des gros salopards. On était content de les voir chaque semaine malgré tout, et là avec cette petite touche en plus nostalgie, tu fais ah ouais, c'est effectivement comme tu dis, c'est une belle histoire quoi. Donc
ouais. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que du coup le sentiment du segment, c'était plus de l'attendrissement que genre que le but de base qui était de se moquer, etc. C'était plus genre sur le moment où Owens il fait ah putain, Enfin, c'est un bon gars, c'est une belle histoire, machin, etc. Tu penses pas, genre, Owens, enculé.
Oui, d'ailleurs, même quand Jericho dit, oui, Owens, quand il avait 16 ans, c'était un gros nerd avec un t-shirt Y2J dans sa chambre. Là, tu dis, ouais, comme peut-être 60% des gens qui regardent le show actuellement, tu vois, qui en ce moment ont un t-shirt de catch et qui regardent ça. Enfin, du coup, c'était un peu
fan.
Voilà, c'était un peu bizarre de la bouche d'un fesse, comme tu dis. Là, les repères étaient un peu brouillés, mais c'est quand même assez clair. Jericho est clairement over avec ses gimmicks. Donc, effectivement, quand Samoa Joe arrive, je voulais le dire, Jericho est sur le point de rajouter Kevin Owens sur la liste de Jericho, mais il n'aura pas le temps puisqu'il y a l'intervention de Samoa Joe et de Kevin Owens derrière. Bref, voilà. Le segment n'apporte pas grand-chose de plus, mais bon, ça reste, n'empêche, un match qui...
Ils n'ont plus rien à raconter, hein,
de Mania, qui est vraiment sur de l'histoire personnelle. Et Jericho est assez habitué, en me rappelant des Mania de ces 10 dernières années, Jericho est quelqu'un habitué à avoir à WrestleMania des matchs, pas forcément pour un titre, même si là, c'est pour les États-Unis, mais c'est anecdotique, mais vraiment des rivalités qui sont personnelles et intenses, et ça, c'est plutôt cool, je trouve.
Et je sais pas si c'était à Mania, mais en parlant de trucs personnels, moi je me souviens de sa rivalité avec Punk sur une possible, je sais plus si c'était une histoire vraie de son père, qui est le père de Punk, qui était alcoolique.
Si, il y a de ça.
Et c'était devenu tellement trash, cette rivalité.
Ouais, c'était horrible. Jericho était heel à l'époque, bien entendu, et Punk était face, et c'était pour Mania, hein, c'était notamment pour le titre de la WWE, ouais. Mais c'était effectivement très très trash, et ça mêlait l'histoire personnelle, effectivement, puisque le père de Punk était alcoolique, et c'est une des raisons pour laquelle Punk, dans la vraie vie, est vraiment straight edge. Parce qu'il a vu les ravages de l'alcool, ce que ça pouvait faire. Donc, voilà pour ceci. Nous passons à une autre rivalité, à notre segment. On nous fait un petit récap de ce qui s'est passé à la fin du Raw la semaine dernière, dont Triple H qui agresse sauvagement Seth Rollins en lui retordant la jambe dans tous les sens. Et donc, on voit une énième vidéo de Seth Rollins qui... est donc en train d'essayer de guérir, hein, donc en réhabilitation, et on a l'interview de Kevin Wilk, donc le médecin qui s'occupe de lui, et qui lui dit en gros clairement c'est une re-blessure catastrophique que connaît Seth Rollins, et il y a clairement aucune chance qu'il soit à WrestleMania. S'il y va, dès le lendemain il sera re-blessé, donc ça sert à rien.
C'est dommage. Désolé, mais juste avant, parce que je sais que après ça va être long le segment.
Ouais.
Juste, je trouve ça dommage que tu fasses, bon, déjà, forcément, ça sonne faux, parce que voilà, le mec, il sait pas faire, enfin, il est pas habitué à faire des promos, mais voilà. Mais, je trouve ça vraiment dommage qu'à la fin de la promo, il dit, mais s'il va à WrestleMania, on le retrouvera sûrement le lendemain. Et c'est juste, c'est bon, on le sait déjà qu'il sera à Mania, mais juste, laissez-nous, juste, le médecin qui dit, personne l'autorisera, il sera pas à WrestleMania, juste qu'ils disent définitivement, que ça monte la pression un petit peu. Et je trouve qu'ils arrêtent pas de dégonfler la pression pour ce truc à chaque fois.
Ouais, c'est un peu bizarre ce qui en est dit à chaque fois. On sait pas trop, ça prend pas trop la sauce. Mais malgré tout, Triple H va avoir un interview dans le ring, cette fois-ci, pas par satellite dans le bureau qui est à côté, avec Michael Cole. Donc clairement, Triple H parle de ça. Dit en gros que Michael Cole donc reproche à Triple H ce qui se passe, ce qui arrive à Seth Rollins, sa blessure. Et Triple H dit en gros, mais attendez, faut pas déconner. Seth Rollins, c'est sa faute, hein. C'est lui qui est responsable de tout. C'est parce qu'en fait, plutôt que m'écouter moi, il a commencé à écouter ben, le public, il a commencé à écouter les encouragements, ça lui a monté la tête. C'est ce qui est arrivé à Mick Foley aussi. Hein. Mick Foley, s'il a déconné, c'est que ben, il a écouté pas ses patrons, mais bel et bien le public. Donc en gros, il dit c'est sa faute parce qu'en fait, il est face. Hein, avec les face, c'est tous des cons. Donc, ce qu'il dit en gros, c'est que il a donné du Triple H à Seth Rollins tout ce qu'il fallait pour réussir. Seth Rollins s'est trahi. S'il en est aussi pitoyable que ça, c'est sa faute. Les médecins vont l'autoriser ou pas à venir à Mania, ça le regarde. Il va pour partir en gros, hein, puisqu'il répète pendant X plombes un peu la même chose. Puis il revient, il dit Ok, en fait, non. Si Rollins est aussi courageux qu'il le dit, et qu'il est prêt à signer une clause, un contrat, qui dit que s'il vient à WrestleMania, et que quoi qu'il se passe, il ne portera pas plainte contre moi, contre Stéphanie, contre la WWE, s'il est handicapé à vie derrière, eh bien dans ce cas-là, je suis prêt à faire un match contre lui. Et donc on nous dit en gros que la semaine prochaine, pardon, on saura si Seth Rollins accepte de signer ce contrat. Donc il clairement, pour résumer, dit que ben je fais un match à WrestleMania contre Triple H, malgré l'avis des médecins, et s'il m'arrive un truc, si je me fais démembrer pendant le match, c'est la faute de personne, je suis responsable de mon propre sort. Voilà.
Et ça, c'est la WWE la plus cynique du monde. Ça, c'est le cynisme au niveau maximum jamais vu. C'est-à-dire, finalement, ils peuvent pas. Comment? C'est comme si, en fait, les dirigeants de la WWE avaient des rêves et qu'en fait, ils peuvent seulement les accomplir dans le kayfabe. Tu vois, c'est un peu ça parce que pour le nombre de procès qu'ils ont eu au cul, etc. Bon,
À
il y en
cause des
a qui vont dire que
blessures,
c'est, ouais, voilà, il y en
effectivement.
a qui vont dire que c'est un rapport avec CM Punk, mais il n'y a pas que CM Punk,
Non.
il y en a eu plein
Il
et
y
il
a
y
un
en a encore en
historique
cours.
long comme le bras, hein, c'est clair. Même si
Voilà.
le public a chanté CM Punk très fortement durant la séquence, c'est juste qu'un public vocal qui essaie de faire le Chicago, comme tu disais, dès qu'il y a Stéphanie, Vince ou Triple H dans le ring, un chant sur deux, c'est CM Punk, évidemment. Hein.
Voilà, mais oui, du coup c'est le cynisme le plus total parce que finalement ce contrat qui va signer Triple H, c'est un peu le contrat qu'ils auraient aimé faire signer à tous ceux qui sont en train de les poursuivre en
Ouais.
justice
D'après toi,
dans
alors,
la réalité.
est-ce qu'on aura un match Triple H Seth Rollins avec cette stipulation contrat bizarre
Mais
à WrestleMania ou
oui,
pas?
on
Ouais.
va l'avoir, bien sûr. Va peut-être y avoir un ou deux obstacles, je sais pas. Peut-être qu'on va repéter la jambe de Rollins. Peut-être que on va nous le montrer dans une chaise roulante 24 heures avant WrestleMania. Et puis le lendemain, c'est un miracle. C'est un
Il
miracle.
marche! Ouais.
Mazel tov.
Ou alors il va se faire détruire par Triple H à Mania et le lendemain à Raw, il sera dans une chaise électrique et avec un ordinateur qui parle un peu la Stephen
Voilà.
Hawking.
Il va reprendre le rôle de Zeb Colter.
I am Seth freaking Rollins. Bref, voilà, donc effectivement, malgré ce qu'on nous
Il va pas
dit,
Triple H à Mania. Il va pas Triple
va y avoir le match, effectivement.
Mais bon, s'il
Est-ce
arrive, ça serait bien qu'il arrive à sortir un bon match de Triple H parce que Roman Reigns de Triple H la dernière fois, oh là là.
Horrible, worst nightmare,
Horrible.
horrible, 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 horrible. D'ailleurs, de toute façon, Seth Rollins nous a spoilé de toute manière la semaine dernière, puisqu'il avait déjà son t-shirt marqué Kingslayer, un hein, tueur de rois, en référence au roi des rois Triple H. Donc, il y a déjà son t-shirt de victoire sur Triple H, c'est un
Voilà.
spoiler, on peut voir ça comme
À
ça.
peine piqué, à peine piqué de la gimmick de Randy Orton, il y
Ouais.
a quelques
Legend Killer,
ouais.
effectivement. Donc voilà, ça se confirme ce match-là. Autre match qu'on sait qui va arriver, forcément, on nous a teasé toute la soirée sur différents vidéos package un peu longs, entre Brock Lesnar et Bill Goldberg, hein, pour le titre universel. Donc là, en nouveau, on a quoi? On n'a pas grand-chose, si ce n'est qu'à la fin, on a un interview de Brock Lesnar avec Paul Heyman. La voix off, je crois que c'est Corey Graves qui lui demande, mais comment vous allez, comment Brock, tu comptes battre Bill Goldberg qui t'a battu à pas de couture au Survivor Series et qui t'a éliminé au Rumble? Brock Lesnar sourit, Paul Heyman sourit et on revoit la vidéo où Brock Lesnar met un F5 à Bill Goldberg qui ne s'en relève pas. Donc le message qu'il veut appuyer, c'est que Brock Lesnar aussi est capable de battre Bill Goldberg avec un seul move en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc ça va être une bataille d'initiative qu'on aura à WrestleMania. Qui va placer son jackhammer ou son F5 en premier gagnera. Ouais. C'est un peu ce qu'on nous vend, donc voilà.
En fait, Goldberg Lesnar, c'est un peu l'équivalent catchesque du Shifumi.
Ouais. En trois manches. Attends, on fait
c'est
en trois.
Shifumi. F5. Ah merde, putain, Jackhammer, tu me bats. Chier.
Ouais, ou alors c'est un mental combat comme s'ils étaient en fatality tout le temps, quoi. C'est un coup décisif et c'est mort. La vraie nouvelle, c'est qu'on nous dit que la semaine prochaine, donc le prochain Raw à Philadelphie, on aura donc Goldberg et Lesnar dans l'émission, visiblement dans le même ring. Peut-être une signature de contrat, je ne sais pas, mais voilà.
Ça racontait rien du tout, sûrement.
Ouais. Ils pourront pas dire grand chose de toute manière. C'est un peu un problème de ce Raw d'ailleurs. Toutes les choses sont quasiment en place pour Mania. La seule vraie changement, ça aura été Nia Jax qui s'incurse dans le match féminin. Mais tout reste, on le savait déjà. Donc c'est continuer à raconter les histoires, à hyper un petit peu les matchs, mais rien de neuf. Dernier segment de la soirée, et non des moindres, donc c'est pour régler une histoire qui traîne depuis un petit moment, une histoire d'honneur, donc entre le gros monstre et le gros chien. Donc Braun Strowman qui veut régler les comptes de Roman Reigns, et Braun Strowman avant le match dit à une intervieweuse que si l'Undertaker veut combattre Roman Reigns à WrestleMania, il ferait bien d'apporter une pelle parce qu'il compte bien enterrer Roman Reigns sous le ring après ce soir. Donc on a un match sans stipulation aucune, hein, entre Roman Reigns et Braun Strowman. Match tout somme que j'ai trouvé assez classique dans le déroulement des deux, mais ça continue de bien marcher. Il y a quelques spots plutôt sympas de violence, comme à l'extérieur du ring quand Roman Reigns veut faire son drive-by, donc c'est le coup où il court, il s'élance et met un coup de pied donc au niveau du ring et dans la tête de son adversaire, et ben Braun Strowman réagit avant et lui met une corde à linge dans la gorge. Je pense que la pomme d'Adam de Roman Reigns a dû côtoyer ses cervicales. Donc voilà, il y a quelques trucs plutôt sympas en termes de spot. Sur la fin, il y a Braun Strowman qui essaie de prendre l'escalier en métal pour poutrer la tête de Roman Reigns, qui contre avec un Superman Punch. Donc là, Roman Reigns se prend le dessus et il fait son truc pour dire « Je vais te spirer pour la victoire ». Et là, boing, le gong de l'Undertaker retentit, les lumières s'éteignent, se rallument, l'Undertaker est dans le ring. Et donc, il y a un jeu de regard entre Roman Reigns et l'Undertaker. Et il y a Strowman qui est quand même là, qui va faire un mouvement pour aller vers l'Undertaker. L'Undertaker le chope et lui fait un shock slam. L'Undertaker se retourne et se mange un spear de Roman Reigns.
Spear! Spear! Spear!
Donc l'Undertaker est à plat sur le ring. Braun Strowman est à plat sur le ring. Roman Reigns tranquillement rentre dans le backstage quand l'Undertaker se relève. Faut pas déconner quand même, du moins se relève comme il le fait. Genre, ma seconde vie. Oups, j'ai claqué un cœur. Et donc se remet sur ses pieds, Roman Reigns le regarde depuis la rampe et ça se finit comme ceci.
Bah ouais. Bah écoute, on verra ce que pardon. On verra ce que l'Undertaker peut faire.
Moi ça me fait très peur ce match, ça me fait extrêmement peur, il y a pas de le build-up et tient sur trois fois rien, c'est juste sur une élimination lors du Royal Rumble, hein. Pour mémoire, c'est Roman Reigns qui a éliminé au Royal Rumble l'Undertaker. L'Undertaker qui en avait l'air courroucé, il s'est pointé quelques semaines après à Raw, a fait un shock slam à Roman Reigns. Depuis, Roman Reigns dit ici c'est mon yard, donc vole la catchphrase de l'Undertaker. L'Undertaker qui est pas content. Bref, c'est vraiment monté en quatrième vitesse, j'ai l'impression, cette rivalité et le match.
Ouais, et c'est tellement dommage. Bon, après, faut donner un match au Taker, donc voilà. Mais c'est tellement dommage d'avoir sapé une feud qui aurait pu être vraiment bien avec Strowman. Ils avaient une plutôt même une très bonne alchimie hein, à force de se rencontrer même si c'était pas toujours pendant des matchs mais plutôt des bastons. Ils avaient vraiment il y a eu des moments de Raw qui ont été vraiment prenants entre Reigns et Strowman. Du coup ça aurait fait vraiment une bonne rivalité qu'il donne une victoire à Strowman, oh mon dieu, ça aurait été.
Ça voudrait dire donner une défaite à Rennes, c'est ça, c'est compliqué, on le sait.
Oui, mais. C'est comme ça que tu construis une feud, le face il perd au début, ensuite le face peut-être est à deux doigts de gagner, mais il y a une disqualification, et à la fin il gagne. Donc voilà, et là direct, c'est genre le face, il a gagné au premier match, donc bon.
C'est réglé. L'up, il veut se venger Strowman, mais il y a Undertaker qui arrive. Ah, pardon, monsieur, vous êtes prioritaire, hein, c'est vous êtes Undertaker, je vous laisse passer devant. Voilà. Moi, Strowman.
Vous avez la carte VIP.
Voilà, Strowman d'ailleurs, on sait pas ce qu'il va faire à Mania, peut-être qu'il va gagner le Battle Royale d'André le Géant. Ça serait un peu.
Oh mon dieu.
Ça serait le meilleur truc qu'ils peuvent lui donner actuellement, parce qu'ils vont pas lui faire un match out of nowhere. Donc ils vont l'intégrer là-dedans et vont lui donner la victoire qu'il aurait pu avoir au Rumble, mais là dans ce match-là.
Il va se faire battre par Shaquille O'Neal à tous les coups.
Donc ouais.
Non, il est annulé. Ah, pardon, il est annulé, Shaquille O'Neal.
Ouais, peut-être qu'il sera là durant le Andre the Giant, hein, parce qu'il a été là pendant un Rumble match, je sais plus lequel, contre le Big Show. Je pense qu'ils vont se sortir mutuellement, Shaquille O'Neal.
Non, mais il y avait.
Show.
J'ai lu comme quoi, en fait, il y avait des négociations et finalement ça a capoté.
Ah merde. Bon, remarque, on s'en fout. Hein. Je préfère qu'il n'y ait pas un match Big Show Shaquille O'Neal qui bouffe 10 minutes de temps sur la carte. Hein. Voilà.
Mais donc oui. J'allais dire quoi.
Ouais, c'est dommage.
C'est pas,
voilà,
donc c'est, du coup, c'est pas contre Reigns. C'est pas une nouvelle fois. C'est pas contre Reigns. Reigns, comme je disais, c'est pas qu'on veut pas le voir gagner. On veut le voir gagner après avoir lutté. On veut le voir gagner après avoir perdu une fois ou deux. Et pas simplement. Rouler sur tout le monde, parce qu'il roule sur tout le monde, Roman Reigns, quoi, tout le temps, et c'est. Et là, s'ils le font gagner contre l'Undertaker et qu'ils espèrent qu'il soit encore. Un gentil lendemain, non, ça va être compliqué. Hein.
C'est foutu. D'ailleurs, j'ai lu sur internet, sur des reports de gens qui étaient dans le public, que visiblement la WWE a encore édité pas mal la foule, les chants de la foule, afin d'enlever des bouts sur Roman Reigns et certains chants moins glorieux au sujet de Paige, de Xavier Woods et annuler aussi certains CM Punk. Donc, dans tous les cas, là aussi, ils ont fait un peu de manipulation en pseudo live. Pour qu'on entende moins les anti-Roman Reigns, afin de pouvoir le faire paraître un peu plus valeureux qu'il l'est, ou du moins un peu plus apprécié par le public. Donc voilà, on n'est pas sorti du sable, Roman Reigns, son carrière de face, elle n'est pas assurée encore. Et vraiment, j'ai très peur pour ce match, parce que même si Undertaker, bon bah niveau du ring, on sait qu'il va pas nous sortir le match de l'année, loin de là, ça reste quand même un événement, et là c'est un peu dommage de le voir un peu en pâture, et ça serait moche de se dire... Les deux fois à WrestleMania où le Taker aura perdu, ça sera contre Brock Lesnar et contre Roman Reigns. S'il faut mettre Roman Reigns, moi ça me ferait un peu mal, personnellement.
Après, contre Lesnar,
pourquoi
sur
pas
la... au niveau de l'historique, ça lui fait pas tant mal que ça.
Non, moi ça
m'allait. Le match était pas bon, par contre.
Non.
Mais, enfin. Et donc, ce qu'on peut espérer à la limite sur ce match, c'est que ce soit potable et court, quoi.
Ouais.
Soit assez court.
Et voilà, c'est tout pour ce Raw. Comme d'habitude, mot de la fin, ton top, ton flop et ta note.
Mon top, c'est la qualification de Nia Jax. Ouais. C'est vraiment la bonne nouvelle de ce Raw. Hein. Ça va faire un très beau match. Ça, plus le match des Cruisers, plus qu'est-ce qu'on a d'autre?
Kevin Owens, Jericho.
Ouais, Owens, Jericho. Et finalement, j'ai quand même un mince espoir pour Rollins Triple H. Hein. Ça peut être bien.
La bataille du pédigré.
Voilà. Donc voilà, ça fait une bonne, au moins une bonne demi, une bonne moitié de WrestleMania qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le flop. Qu'est-ce que c'était le flop? Bah, les tag team, hein. Mais en fait, c'est pas que ça fera pas un bon match, hein. Ce sera peut-être un bon match ou même un très. Enfin, non, ça pourra pas être un très bon match à Enzo et Cass. Mais. Je suis désolé, mais Enzo et Cass, ils font la même chose depuis qu'ils sont arrivés, et ça a jamais changé, et donc du coup, dès que ça va être à eux sur le ring, direct, je vais faire, ok, c'est quand que les autres reprennent. Ouais, le flop, c'est juste la gestion, en fait. La gestion et la narration autour des tag teams, qui est juste incompréhensible, enfin, incompréhensible. Ça va dans tous les sens,
c'est nul.
C'est nul. Voilà.
Depuis qu'ils ont mis les ceintures sur le club, ils leur donnent pas la chance, ils leur donnent pas l'espace pour qu'ils s'installent en tant que champion. Mm-hmm. Bref, c'est incompréhensible.
Oui, voilà, ils ont jamais dominé leur division, hein, le club.
Non.
Jamais.
Non, non.
Ils sont toujours présentés comme des champions fragiles qui doivent. Qui se font distraire super facilement, qui doivent tout le temps. Utiliser des techniques mais qui sont pas forcément programmées, quoi. C'est l'improvisation, c'est pas Dash et Dawson. donc voilà. Et la note de Throw, on va dire que c'était un Raw moyen au niveau des matchs, au niveau des événements, à part Nia Jax, donc 2,5.
Ok, très bien. Eh ben moi mon top ça va être Osiris Neville, hein. Donc vu que je regarde pas tout Five Live, j'étais bien content d'apprendre que c'est lui qui avait gagné le match pour pouvoir défier Neville à WrestleMania. Donc là vraiment voilà, ça fait depuis qu'il est qui combat que les segments Cruiserweight prennent en qualité de façon assez intéressante. Donc vraiment là c'était le truc encore une fois qu'on n'attend pas au rendez-vous à Raw finalement, et qu'on se dit ah ce segment était cool, et comme le reste était très moyen, je trouve que ça ressort plutôt positivement. Mon flop ça va être le segment avec le New Day qui m'a emmerdé totalement, c'était à chier, et ça me fait vraiment peur pour WrestleMania. Comme ça va être les hôtes du show, les présentateurs, j'ai peur qu'ils pourrissent tout le long le show en fait, même ouais, si on sait qu'ils peuvent faire des bons trucs, mais j'ai peur qu'en fait on fasse une saturation au bout d'une heure en fait. Et
ouais, mais
heures,
les
hosts, moi je sais
et
pas.
Tu sais, la dernière fois qu'ils ont dit host de WrestleMania, c'était quoi? C'était Jon Stewart, non? Ou c'était non, pas c'était pas Jon Stewart, c'était je sais plus, mais en tout cas, il me semble quand t'as quelqu'un qui est censé être host de WrestleMania, on le voit genre deux fois, quoi.
Oui, enfin, mais c'est pas des gens du roster. Là, comme c'est New Day qui sont du roster, j'ai peur qu'ils les surutilisent tout le long de WrestleMania, et ça me ferait vraiment flipper ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire pareil, hein, qu'ils vont aller voir qu'un petit peu et qu'ils vont être fins et subtils du moins dans le nombre de fois qu'ils vont les utiliser, et qu'ils vont pas nous les mettre tous les deux matchs parce que sinon ça sera insupportable. Manoj, je vais être un peu plus sévère, je vais mettre un 2 parce que franchement à 2 semaines de Mania, ce round n'apportait rien à part la qualification de Nia Jax. Match moyen, des trucs intéressants mais rien de foufou, les segments non plus, donc ils peuvent mieux faire, donc voilà pour mon avis sur ce Raw. Donc il reste plus qu'un Monday Night Raw avant WrestleMania. On verra bien la semaine dernière si on a de la nouveauté, si cette Rollins se signe
la semaine prochaine, tu veux dire?
Ouais, la semaine prochaine,
la semaine dernière.
La semaine dernière. Je voyage dans le temps, je suis comme ça. Comme on revoit les mêmes choses, on a l'impression que c'est la semaine dernière, mais c'est la semaine prochaine. Donc on verra si Seth Rollins signe le contrat qui autorisera Triple H à le démembrer sur le ring et n'avoir aucune poursuite judiciaire. En attendant ça, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur YouTube, sur PodCloud, sur Twitter et sur Facebook. Le nom pour nous trouver, c'est Catch-up CDC. N'hésitez pas à laisser des likes, des petits pouces vers le haut, des commentaires. Ça nous fait plaisir et ça nous aide pour gagner un peu plus en visibilité. Et d'ici là, ne manquez pas le supplément SmackDown qui va apparaître d'ici pas longtemps. Et donc, on fera, je pense, peut-être avant WrestleMania, un petit podcast de prédiction. Qui sait, si on a le pronostic.
Ah oui, ça va être obligatoire.
Obligatoire.
On regarde WrestleMania ensemble ou pas, hein, c'est pas encore décidé. Mais je voulais du coup remercier les gens parce que je viens de revérifier, on a dépassé 150 abonnés sur YouTube. Donc merci. On va pas compter tous les 50, mais j'avais pas compté, j'avais pas fait de remerciements pour les 100, donc je remercie pour les 150. Voilà. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à parler du podcast à d'autres gens, et si vous le trouvez marrant, même à des gens qui ne suivent pas le catch, peut être marrant.
Pourquoi pas. N'hésitez pas en tout cas, et merci effectivement de vos petits soutiens, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir aussi vos avis sur les storylines, les shows, que vous soyez d'accord ou pas avec nous, c'est intéressant de discuter, donc n'hésitez pas à interagir, on essaiera d'être aussi interactif avec vous. Et ben d'ici là, merci Hank.
On sera pas aussi interactif que Xavier Woods avec Paige, hein. Ne vous inquiétez pas.
Là-dessus, c'est bien.
il fallait que je la sorte.
Ou alors seulement au millième abonné, peut-être qu'on réfléchira à quelque chose, on verra un truc avec Giscal. On
appellera Brad Maddox pour faire un document vidéo. et merci beaucoup du coup. J'allais faire la fin de l'émission tout seul.
Merci. N'hésite pas, si tu veux la faire, on peut la faire ensemble. Merci à vous.
D'accord.
Et d'ici là, passez une bonne semaine de catch.
Pleine de catch.
À très vite.
Oh merde.
Salut. Salut.